Alors, un petit rappel tout d'abord, c'est important quand même, la structure de la production d'électricité en France. En effet, le nucléaire représentait en 2022 soit un peu 63% à peu près. Normalement, c'était plus proche de 70, voire de 75%, mais en 2022, ce n'est pas une très bonne année pour le nucléaire. L'hydraulique, c'est 12%. Les renouvelables, l'éolien solaire, c'est à peu près 13%. Le gaz, c'était 9,9%, ce qui est élevé. D'habitude, c'est plutôt 6 à 7%. Mais on avait besoin du gaz l'année dernière parce que le nucléaire n'était pas au rendez-vous. Donc voilà à peu près la structure, ce qui explique que nous, on a un avantage comparatif avec le nucléaire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte libéral de l'époque. Les directives de 1996, c'est rentré en application en 2000. Et également des incitations de la part des industriels qui faisaient une pression pour pouvoir choisir leurs fournisseurs. Et les textes européens, c'est-à-dire que les traités prévoient qu'il faut libéraliser ce qui peut être ouvert à la concurrence. En d'autres termes, les monopoles ne doivent subsister que pour ce qu'on appelle en économie les monopoles naturels, c'est-à-dire les industries de réseau. Dans la chaîne électrique, vous avez plusieurs niveaux. La production, on peut faire de la concurrence dans la production, ce n'est pas un monopole naturel. Ensuite, vous avez le transport, la distribution, ça ce sont des réseaux, c'est un monopole naturel, donc il faut que ce soit régulé. Et ensuite, la fourniture, c'est-à-dire le commerce, ça, c'est ouvert à la concurrence. Donc, ce sont les deux extrêmes de la chaîne qui sont ouverts à la concurrence. Le reste, c'est régulé. Les tarifs d'accès au réseau de transport, RTE, ou au réseau de distribution Enedis, sont fixés par une commission de régulation. Par contre, les traités, les directives prévoyaient qu'il fallait ouvrir à la concurrence la production et ouvrir à la concurrence la fourniture. Il n'y a pas de monopole à ce niveau. Le problème, c'est qu'on a fait beaucoup d'exceptions dès le début. D'abord, quand on a voulu développer les renouvelables, on a dit « Ah oui, mais au prix de marché, c'est pas rentable, on va les aider. » Donc, on leur a proposé des prix garantis. Et comme le prix de gros n'était pas suffisant pour financer la production, eh bien, on a introduit une taxe payée par le consommateur final. Ensuite, les réseaux, comme je l'ai dit, sont régulés. Et puis, on a fait encore une exception plus importante. C'est l'AREN, on a parlé de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Quand on a ouvert la concurrence, on a dit EDF est compétitif, mais les alternatifs, ils n'ont pas la chance d'avoir du nucléaire. Ben, on va leur en donner. C'est la fameuse commission Champsaur. Moi, il se trouve que j'étais membre de cette commission Champsaur qui a proposé au gouvernement qu'il y avait deux solutions. Soit on taxe le nucléaire, finalement, c'est peut-être la solution vers laquelle on va aller, soit on permet aux concurrents d'EDF d'accéder au nucléaire historique à un prix fixé par une commission ou par l'État. Alors l'État a fixé le prix, puis après il a dit on reverra dans le temps l'augmentation du prix. Le prix a été fixé en 2012 à 42 euros le mégawatt-heure. Il n'a jamais été revalorisé pour différentes raisons sur lesquelles je ne peux pas m'étendre. Et donc il est resté à 42, mais très loin de ce que ça coûte maintenant réellement à EDF. Donc EDF dit je perds de l'argent ou j'en gagne pas beaucoup à 42 euros. Donc une réforme va apparaître. Donc ce marché de gros, il va jouer un rôle important parce que tout n'est pas vendu sur le marché de gros. Une partie seulement de l'électricité est vendue sur le marché de gros, mais le prix de gros, lui, il joue un rôle important dans les contrats, puis il joue un rôle important comme indicateur de ce qu'est le coût de l'électricité. Alors il existe un marché heure par heure. Aujourd'hui, vous avez un prix tous les 24 heures, un prix toutes les heures. Il y a 8760 heures dans l'année, donc il y a 8760 prix dans l'année. Ce schéma est important parce que c'est lui qui va expliquer, je dirais, la différence entre le coût moyen et le coût marginal. Il y a deux concepts très différents. À gauche, vous avez, quand on regarde l'écran, vous avez ce qu'on appelle le coût moyen des différentes énergies. Si je veux sélectionner un investissement, je me base sur le coût moyen. Je regarde ce que ça coûte sur l'ensemble de la période de la centrale et je vais choisir les centrales qui coûtent le moins cher. Dans ce coût moyen, vous avez à la fois des coûts fixes et des coûts variables. Et donc, là, c'est un ordre de mérite sur la base du coût moyen. Alors, vous remarquerez qu'il y a deux couleurs importantes, du bleu et du jaune. Le bleu, c'est les coûts fixes. Le jaune, c'est les coûts variables, et essentiellement le coût du combustible. Et donc, une fois que je construis des centrales, je me base sur ce graphique pour choisir la meilleure centrale. Donc, j'ai un mix électrique, c'est-à-dire que j'ai un ensemble de centrales. Et ensuite, quand je fais fonctionner les centrales, une fois que le parc est construit, je me base sur le coût marginal, c'est-à-dire que j'appelle les centrales dans l'ordre du coût de fonctionnement. Et le coût de fonctionnement principal des centrales thermiques, c'est évidemment le combustible. Ce qui coûte cher dans une centrale à gaz, c'est le prix du gaz. Ce qui coûte cher dans une centrale à charbon, c'est le charbon. Par contre, les éoliennes, le solaire Et même le nucléaire, ils ont des coûts variables, des coûts de combustible très faibles. Donc j'appelle les centrales dans l'ordre des coûts marginaux croissants. Le prix d'équilibre se met sur le coût marginal de la dernière centrale dont j'ai besoin. Il faut que je rémunère cette centrale, parce qu'une centrale à gaz qui ne récupère pas le prix du gaz, ben, elle ne fonctionne pas. Je ne vais pas mettre sur le marché une centrale si je ne récupère pas au moins le coût de fonctionnement. Et comme ce sont des enchères à prix limite, tout le monde reçoit le prix limite. Donc on dépend du prix du gaz. Alors vous allez me dire, eh bien alors la rente inframarginale, ben la rente inframarginale, ce n'est pas nécessairement une rente indue. Cette rente, elle permet de financer les coûts fixes des autres centrales. Les centrales à gaz n'ont pas beaucoup de coûts fixes. Par contre, les autres centrales, elles ont beaucoup de coûts fixes. Donc grâce à ce prix élevé, elles peuvent financer eh bien, leurs coûts fixes. Alors bien évidemment, à certains moments, la rente n'est pas suffisante pour financer le coût fixe, et à d'autres moments, elle est excessive par rapport au coût fixe. Jusqu'en 2021, la rente n'était pas très importante. Elle n'était même pas suffisante pour financer les coûts fixes. Mais à partir de 2022, elle est devenue exceptionnelle. D'où l'idée, eh bien, il faut essayer de caper cette rente, c'est-à-dire d'en limiter l'importance pour le consommateur. Alors voilà, c'est l'ordre du coût marginal qu'a présenté ma collègue tout à l'heure. Vous voyez, ça vous explique qu'on dépend du prix du gaz. Alors on le voit là, ce graphique, il montre en bleu le coût moyen et en rouge le coût marginal. Pendant longtemps, regardez, le coût marginal était en dessous du coût moyen. C'est-à-dire que le prix de gros ne permettait pas de financer les coûts fixes. Et ça explique qu'on ait fermé beaucoup de centrales à gaz à cette époque, et même des centrales à charbon. On a même permis un peu de nucléaire, bon, à tort. Mais alors aujourd'hui, on pense que le coût marginal sera au-dessus du coût moyen. Est-ce qu'il restera au-dessus du coût moyen? C'est une autre question. Hein, mais ça, 2022 est une date charnière. Ça explique que les prix se soient envolés. Alors, pour un consommateur final, en fait, au départ, vous avez trois tiers dans le prix. Vous avez un tiers, c'est le coût de fourniture, c'est-à-dire le prix du marché de gros qui va jouer un rôle important. Et puis, vous avez, deuxièmement, les charges d'accès au réseau, c'est la deuxième partie, et puis les taxes. D'habitude, c'était trois tiers. Alors, aujourd'hui, c'est plus tout à fait trois tiers, il y a un petit tiers, c'est les taxes, parce que l'État a supprimé une des taxes, la TICFE, il a maintenu la TVA quand même, bien sûr. Tarifs d'accès au réseau sont toujours relativement importants. Et puis, ce qui a augmenté, évidemment, c'est le coût de fourniture, c'est-à-dire à la fois le coût du nucléaire et du complément marché, parce que le nucléaire, on ne peut pas faire appel qu'à des centrales nucléaires. Il faut quand même un complément marché. Donc, c'est le prix du marché de gros qui a fait que le prix pour le consommateur final s'est envolé. Alors, on le voit, hein, sur 10 ans, il a même beaucoup monté. Alors, c'est pas toujours à cause du coût de fourniture. C'est en partie à cause des taxes, pour aider, par exemple, les renouvelables. C'est aussi à cause des réseaux, parce qu'il faut investir dans les réseaux. Puis, il faudra encore investir dans les réseaux. Donc, c'est logique que le prix ait augmenté. Ce qui a été négocié à Bruxelles, enfin plutôt la réunion des ministres de l'énergie, c'est ben on ne peut pas avoir des prix aussi volatiles, parce qu'un prix toutes les heures, c'est très volatile. Et alors s'il s'envole, c'est un problème pour le producteur qui ne sait pas très bien quel sera le prix auquel il va vendre, mais c'est un problème aussi pour le consommateur qui ne peut pas supporter une volatilité aussi forte. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on supprime le marché? Alors ça, c'est le point de vue de certains. On pourrait supprimer le marché. Bon. La deuxième... Alors, dans l'Europe, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, on ne supprime pas le marché, mais on va mettre des garde-fous. C'est-à-dire qu'on va essayer, en quelque sorte, de mettre un prix plafond, un prix plancher. Ce qui a été négocié le 17 octobre, c'est un peu l'idée, il y a un prix plancher, un prix plafond. On peut même, d'ailleurs, faire en sorte que ce soit le même. Et donc, au-delà d'un certain prix, l'État prélève. Et en deçà d'un certain prix, le producteur reçoit une compensation. Alors, on va voir, mais j'y viens pas parce que soit on y viendra dans la discussion, soit ma collègue Kathleen Schubert va en parler. À l'heure actuelle, la réforme qui est en train d'être mise en place, hein, depuis une semaine, suite à l'accord entre le gouvernement et EDF, c'est un système un peu différent de ce qui a été négocié. Mais on sent bien qu'il faut essayer d'éviter cette volatilité parce que ça n'envoie pas, comme ça a été rappelé, un bon signal sur le long terme, ni pour le producteur, ni pour le consommateur. Alors, on avait négocié le 17 octobre ce qu'on appelle les contrats pour différence. Vous entendez souvent parler, contrat pour différence, vous avez un prix plafond au-delà duquel l'État prélève et un prix plancher en dessous duquel il aide le producteur. Alors, on peut avoir un système où le prix plancher et le prix plafond sont égaux. En fait, ce qui a été mis en place, ce qui va être mis en place, c'est une sorte de prix plafond, mais sans prix plancher. Mais on y reviendra sûrement. Alors, il y a un débat à l'heure actuelle, où il y a eu un débat entre EDF et l'État, la commission de régulation notamment, sur le coût du nucléaire historique. Vous avez vu que le nucléaire qui était vendu par EDF à ses concurrents, c'était 42 euros le mégawatt-heure, 4,2 centimes d'euros par kilowatt-heure. Bon, EDF dit, on ne l'a jamais revalorisé, il aurait fallu le revaloriser, ne serait-ce qu'en tenant compte de l'inflation, mais aussi des dépenses d'investissement. Alors la CRE a fait ses calculs, et elle a dit, bah, c'est plutôt 60 euros le mégawatt-heure, 60,7. EDF a fait les mêmes calculs, enfin, plutôt la CRE a rendu public des calculs faits par EDF qui montraient que le coût du nucléaire était plus proche de 75 euros le mégawatt-heure. Finalement, on parle aujourd'hui dans la presse d'un accord entre les deux pour dire que l'objectif, le principe, c'est de 70 euros le mégawatt-heure. Donc vous entendrez souvent parler des fameux 70 euros le mégawatt-heure, c'est-à-dire 7 centimes d'euros par kilowatt-heure pour le nucléaire. Alors, cette libéralisation est-elle un échec ou est-elle un succès ? Bah, je serais tenté de dire c'est pas vraiment un échec, mais c'est pas non plus vraiment un succès. Parce qu'un marché de gros, pour une marchandise qui ne se stocke pas, parce que l'électricité ne se stocke pas à grande échelle, vous avez une très très forte volatilité des prix. Bon. Donc cette volatilité, elle est très difficile à prendre en compte pour gérer les investissements. Donc il faut essayer de réguler davantage pour éviter cette volatilité. La deuxième chose très importante pour le futur, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va décarboner le mix électrique, c'est-à-dire qu'on va sortir des énergies fossiles. Il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus de charbon. Ce n'est pas pour demain, hein. Mais théoriquement, en 2050, on ne fait plus d'électricité avec le gaz et le charbon en Europe. À ce moment-là, les coûts marginaux deviennent très faibles, voire nuls. Les renouvelables, le coût marginal, c'est zéro. Le nucléaire, c'est très faible. Et par conséquent, on ne peut pas avoir un prix de gros calé sur les coûts marginaux. Il faudra modifier le système, quoi qu'il arrive, pour que le prix suive le coût moyen. Donc, il faudra de toute façon revoir la copie pour le futur.